Salut tout le monde, on est super content de vous avoir avec nous pour le message de cette semaine. Nouvelle Vie, c'est une église, trois sites et différentes plateformes qui vous permettent de rester connecté avec nous, peu importe où vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur nouvellevie.com, Instagram, YouTube, Facebook et en podcast. On est présentement dans la série ADN où on étudie le livre de Jacques, le plus pratique et le plus applicable de tout le Nouveau Testament. Soyez bénis et bonne écoute.
Avec vous, je vais vous partager sur Jacques, chapitre 5, les versets 7 à 9, sur l'idée des uns et des autres. Et voici ce qui est écrit dans Jacques 5. « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Ce matin, alors qu'on est dans l'ADN de la vie chrétienne, je voudrais mettre l'emphase sur le verset 9 qui dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » Amen. Parce que c'est facile de se plaindre. C'est facile de voir la poutre dans l'œil de l'autre et d'oublier la paille dans mon œil. Ah, je sais que c'est le contraire. Mais soyons honnêtes. Ah, il travaille sur sa poutre, il travaille sur sa poutre, hein? Pendant que nous, on pense qu'on a juste une paille. Il faut être honnête ce matin. C'est tellement facile de remettre le blâme sur les autres pour tous nos problèmes. Amen. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change dans nos vies. Parce qu'on remet tous les problèmes sur les autres. C'est la faute du gouvernement, ça. C'est nous autres qui l'a élu en passant. Hein? Bon, c'est la faute des autorités, c'est la faute de ci, c'est la faute du boss, c'est la faute des employés, c'est la faute... Toujours la faute des autres. C'est facile. Et parfois, pas ici, ça peut être vrai dans l'Église. Ça peut être vrai dans l'Église. Et c'est pour cela que Jacques, dans son épître, nous encourage à ne pas se plaindre les uns des autres. Et plein d'auteurs dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même nous exhorte à la communion fraternelle. Parce que dans l'ADN de la vie chrétienne ne se vit pas seule, elle se vit en communauté. Elle se vit les uns avec les autres. C'était voulu de Dieu. L'Église, c'est l'idée de Dieu pour le besoin que nous avons d'être les uns avec les autres. C'est Dieu qui est à l'origine de l'Église. C'est Dieu qui a déclaré au tout début de la création, avant même la chute, que ce n'était pas bon pour l'homme, ce n'était pas bon pour l'humain d'être seul. Le fait est, c'est qu'on a besoin les uns des autres. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est un pèlerinage avec d'autres personnes sur le sentier. Et je sais qu'on est dans une époque présentement où on a quasiment peur, il ne faut pas se toucher parce que là, il y a un virus qui court. Et tu comprends que tu as plus de chances de mourir de l'influenza que du coronavirus? Tu comprends qu'aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui vont mourir, dont 10 000 enfants, de faim. Ça, on n'en parle pas beaucoup, hein? Mais on parle beaucoup des 3 000 qui sont morts du coronavirus. Et je ne veux pas manquer de compassion envers les familles éprouvées. J'ai beaucoup de compassion pour les familles qui sont éprouvées, hein, de la perte d'un être cher. Mais la réalité, c'est selon les chiffres, s'il y en a 3 000 qui sont décédés, ça veut dire que le taux de guérison du coronavirus est de 97 %. Peut-être qu'on devrait regarder les choses un petit peu plus en perspective. Mais tu vois, on est tous paniqués de se toucher puis d'être... Hein? Faut pas qu'on se touche. Le fait est, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Tu vois, dans la pyramide des besoins de Maslow, hein, Maslow est un psychiatre, puis il a établi les besoins de l'être humain. Dans sa pyramide, le premier niveau, c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, l'air. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Mais le troisième niveau, dans la pyramide des besoins de l'être humain, c'est un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance. Idéalement, dans nos familles. Mais quand on ne l'a pas, on peut la trouver dans la famille de Dieu. Tu vois, c'est ça le plan de Dieu. Dieu comprend et Dieu sait que nous avons besoin les uns des autres. Et non seulement est-ce que ça fait partie de l'ADN de la vie chrétienne, de vivre les uns avec les autres, mais ça fait partie aussi de l'ADN de nouvelle vie. Ce qu'on appelle les 3 C, hein? Connaître, connecter, contribuer. Ce matin, je veux mettre l'emphase sur connecter les uns avec les autres. Sur comment le faire, parce que la réalité est, c'est qu'on est différents et parfois, ce n'est pas toujours facile de connecter les uns avec les autres dans nos différences. Amen. En passant, je parle sur l'Église, mais ça se pratique très bien dans notre couple, ça se pratique très bien dans notre foyer, ces principes-là. Parce que la réalité est, on n'est pas tous pareils. Et dans l'Église, il y a plusieurs personnalités. Première photo. Hein, il y a la personne qui est indécise à gauche. Hein? On va manger où? Je ne sais pas. Où tu vas aller manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais jamais. Commencez pas à vous regarder les uns les autres. Regardez en avant. Vous me regardez moi. Ah, le deuxième type de personnalité, c'est la personne qui connaît tout. Tu parles pas connaître tout ça. OK. Il y a la troisième personne, c'est la personne qui est toujours contente. Tu sais, est toujours joyeuse. Hein? Elle est toujours agréable. Ça, tu la veux en charge des placeurs puis de l'accueil. Tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. T'as la personne qui chiale tout le temps. Regardez-moi ici, regardez-moi ici. Hein? Jamais rien de bon. Juste chialer, chialer, se plaindre et se plaindre. T'as la personne qui est silencieuse. Ça, c'est eux autres qui me stressent. Les autres, ils me stressent parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Ils sont silencieux. Ils ne disent pas un mot. Ils sont là. Ils ne disent pas un mot. T'as la personne qui est agressive, qui est toujours colérique. Et t'as la personne qui est trop négative. Il n'y a jamais rien de bon. Et au milieu de toutes ces personnalités-là, on est supposé de ressembler à ceci. Calme et serein dans toutes nos différences, quand dans le fond, à l'intérieur, on se sent comme ceci. Voici comment l'apôtre Paul a encouragé les chrétiens de Rome à marcher les uns avec les autres, de marcher en communauté. Et il va donner 6 exhortations, 6 conseils à mettre en pratique pour nous aider à vivre dans la communion fraternelle. On va regarder les Romains 15, des versets 1 à 7. « Nous qui sommes forts, dit Paul, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Le premier élément que Paul suggère, qu'il propose, c'est celui de se supporter. Se supporter les uns les autres. Quelqu'un a déjà dit, l'Église, c'est la seule armée qui tue ses blessés. Quelqu'un trébuche, quelqu'un tombe, on passe à côté. Ouais, je savais qu'il n'était pas sauvé, lui. Hein? Ou on passe par-dessus. Non. Dérangeant dans mon chemin, ça. Se supporter. Parce que ça arrive qu'il y a des croyants qui font des gaffes et des erreurs. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les supporter. Ça arrive que des croyants vont avoir de la difficulté à marcher et à avancer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les supporter, les aider. Il arrive que des croyants ne sont plus capables de se lever parce que le poids est trop pesant sur eux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aller les supporter, les aider à se relever. Il arrive parfois qu'affaiblis par l'épreuve et la tempête, j'ai besoin que quelqu'un vienne autour de moi pour dire, attends, on ne te laissera pas ça, on va t'aider, on va te supporter, viens, on va te relever. Tu vois, le mot supporter veut dire endurer patiemment et être indulgent. Endurer patiemment et être indulgent avec les gens. J'oublie parfois qu'il y a certaines choses spirituelles que j'ai compris, mais qui m'ont pris plusieurs années avant de les comprendre. Est-ce possible que ça va être la même chose pour d'autres? Est-ce possible qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées en moi maintenant, mais qui ont pris des années avant de le devenir, que ça va être la même chose pour les autres? La clé, ce n'est pas de chercher ce qui me plaît. Ça veut dire de chercher le mieux pour l'autre. Ça veut dire que quand je vois l'autre tomber, quand je vois l'autre s'écrouler, quand je vois l'autre qui a de la difficulté à marcher, ce n'est pas de le tasser pour dire « Hey, moi, je marche. » Non, c'est de le prendre, de le relever, de le supporter. Et Paul va dire ceci aux Éphésiens, Éphésiens 4, 2, il va dire, voici le comment, les quatre façons de le faire. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Tu as vu la première qualité avec humilité. Avec humilité. L'humilité que moi aussi, je suis un pécheur. Trop souvent, je pense que je suis au-dessus des autres. Ou je vais les abaisser pour être sûr que je reste au-dessus des autres. Et j'oublie que, mais moi aussi, là, j'ai mes propres défis. Moi aussi, j'ai mes propres faiblesses. Moi aussi, des fois, je trébuche. Moi aussi, des fois, il faut que je demande pardon à Dieu. Moi aussi, là, je ne suis pas parfait. Et j'ai besoin de garder cette humilité-là quand je veux supporter quelqu'un d'autre. Pas de le faire avec un regard, mais plutôt avec un regard d'humilité. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas à l'épreuve. D'échouer. La deuxième, avec douceur. Avec douceur. Un cœur, c'est fragile. Un cœur brisé, il l'est encore plus. Comment tu communiques avec ton épouse? Avec douceur. Comment tu communiques avec tes enfants? Avec douceur. Comment tu communiques à la fin de la semaine de relâche avec tes enfants? Et tu es tellement content qu'on a avancé l'heure parce que ça donne une heure de moins avant que l'école recommence demain. Comment on se parle les uns avec les autres? Avec douceur? Comment on se traite mutuellement? Avec douceur? Paul dit, parlez-vous avec douceur. Soyez doux. Avec. Il dit, troisièmement, avec patience. Avec patience. La croissance, ça prend du temps. Tu vois, on a tous le même fil d'arrivée, mais la réalité, on n'a pas toutes la même case départ. Et pour certains, la marche est un peu plus longue. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Il faut juste être patient les uns avec les autres. Je sais que vous n'avez jamais prié ce genre de prière que moi j'ai fait. Seigneur, je te prie que tu changes maintenant. Frappe-la, transforme-la, saisis-la, change-la. Amen! Et Seigneur, merci de ta patience et de ta compassion envers moi. Tu vois, la même compassion, la patience qu'il y a envers toi, il l'a envers les autres aussi. Hein? Des patients les uns avec les autres. Des patients les uns. Et avec amour. Ça change tout. Jésus a dit que c'est par notre amour les uns pour les autres que le monde saurait qu'on est ses disciples. Pas par notre doctrine, pas par notre théologie, pas par la grosseur de nos églises, par notre amour les uns pour les autres, le monde va savoir. Tu vois, par amour. Que l'amour de Dieu, l'amour de Christ nous envahit afin de nous aimer les uns les autres, de se supporter et de toujours garder en pensée le fait suivant, que c'est possible qu'un jour, c'est moi qui vais avoir besoin d'être supporté. Tu vois, je ne veux pas faire partie d'une église qui tue ses blessés parce que peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais être le blessé. Puis je veux créer une atmosphère autour de moi que quand ça ne va pas, j'ai quelqu'un qui va me dire, « Attends, non, je ne te laisserai pas tout seul. Là. Non, bouge pas. » On va marcher avec toi. Je vais te supporter. Parce que peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais en avoir besoin. Tu vois, tu ne sais pas les épreuves qui s'en viennent. Tu ne sais pas les tempêtes auxquelles tu peux faire face. C'est possible qu'un jour, alors que tu penses que tu es fort aujourd'hui et que tu l'es, mais c'est possible qu'un jour la tempête soit tellement forte que tu auras besoin de quelqu'un qui va venir à tes côtés pour te supporter. La deuxième chose que Paul dit aux Romains, c'est de s'édifier. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Tu vois, ce n'est pas juste de supporter les faiblesses, mais c'est édifier l'autre. Édifier, c'est un terme de construction. Hein? À partir de rien, avec des morceaux tous séparés, on construit un édifice, on construit une maison, une bâtisse. Édifier, ça veut dire encourager. Dans Thessaloniciens, Paul le dit comme ceci. « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Hein? » Édifier, c'est de voir, de discerner le potentiel de quelqu'un en Jésus-Christ. « Wow, voici ce que tu peux devenir en Jésus-Christ. Wow, voici tout ton potentiel. » Et d'encourager la personne, dans cette direction-là, d'encourager la personne dans ce qu'elle ressent. Te rends-tu compte combien il y a de gens qui ont grandi avec le message « Tu ne feras jamais rien de bon. Tu es une bon à rien, tu es un bon à rien. Tu ne réussiras jamais dans la vie. » Et combien de gens ont grandi avec ces paroles-là dans leur tête, qui ont encore cette valeur-là ancrée en eux. Tu vois, si tu dis à tes enfants qu'ils sont bons à rien, devine ce qui va arriver. Ils vont te croire et c'est ce qu'ils vont devenir. Mais le contraire est vrai aussi. De s'édifier mutuellement, de s'édifier, de s'encourager au lieu de se critiquer, au lieu de se plaindre les uns des autres. Tu vois, avec Jésus dans nos vies, il y a quelque chose à faire de bon avec nos vies. De s'édifier, se construisant les uns les autres. À la valeur minimum de base, c'est que si tu es un être humain, tu as été créé à l'image de Dieu. L'empreinte de Dieu est sur toi. Et parce que tu es un humain, tu as une grande valeur. Mais d'avoir des paroles d'édification, puis de s'édifier. Tu dis, ouais, mais là, pasteur, ben j'entends vos pensées, hein, je suis psychothérapeute, je lis vos pensées. Et et là, il y en a qui ont eu peur. Là. J'espère qu'il n'a pas vu ça. Non, c'est une farce. Il y en a qui disent, ouais, mais pasteur, tu es trop s'édifié, là. Ils vont devenir orgueilleux. Bon, pas du tout. Édifié en Jésus-Christ, c'est à cause de Jésus. C'est lui qui reçoit toute la gloire. Mais d'encourager des gens autour de nous à dire, hey, ce que tu peux faire là, avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. De s'édifier, de s'encourager. Mais trop souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Québécois? On y va direct. Ah oui. En tant que Québécois, quelqu'un commence à s'élever. Hey, reste avec le peuple. Wow, wow, wow. Prends-toi pas pour un autre, là. Hein? Reste au milieu de nous. Mais tu sais, je voyage un peu, puis je rencontre d'autres pays, puis je rencontre d'autres personnes, puis tu as des gens qui disent, ah ouais, vas-y, t'es capable. Wow, c'est ça que Paul veut dire. S'édifier les uns les autres. Avec Dieu, c'est possible. Troisièmement, de contempler. Le verset 3, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Tu vois, pour pouvoir supporter et édifier, j'ai besoin de contempler Jésus à la croix. Comme on vient de faire à la Sainte-Cène. Parce que quand je regarde à Jésus, quand je le contemple à la croix, je me rends compte de son œuvre de grâce dans ma vie, comment il me supporte, comment il m'édifie et il m'aide à voir les imperfections des autres sur un nouveau regard. Tu vois, les autres et leurs imperfections, ben Jésus a donné sa vie pour eux aussi, pas juste pour moi. Peu importe la personne où elle est, peu importe ce que la personne fait, Jésus a donné sa vie pour cette personne-là. Et lorsque je regarde à Jésus et que j'entends Jésus dire à propos de ceux qui lui font mal, à propos de ceux qui sont en train de faire ça, et j'entends Jésus dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow, qui suis-je pour retenir le pardon envers quelqu'un d'autre? Quand Jésus crucifié à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En certains versets vont dire, ils pensent servir Dieu, ils pensent honorer Dieu en faisant ce qu'ils font. Et les outrages qui sont retombés sur lui. Et tu vois, parfois, on va être la cible de certaines critiques, on va être la cible de certaines attaques. Ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de Dieu qui est en nous. C'est à propos de ce qu'on représente. C'est à propos de les principes de vie que nous, on avance et qu'on vit. Ce n'est pas nous qui rejettent. C'est ce qu'on représente qui rejette. L'Église n'est pas supposée devenir acceptable par le monde. Amen. Tu vois, l'Église est supposée de briller dans les ténèbres et d'offrir des solutions aux gens, d'offrir le sens de la vie en abondance, tu vois. Et je n'ai pas besoin de rester sur les offenses que je peux avoir. Sinon, je vais tomber dans l'amertume et ça va ruiner ma vie. Mais j'ai besoin de prendre considération qu'il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas moi, c'est ce que je représente. Et c'est correct, ils ne connaissent pas Christ. J'ai besoin d'avoir cette grâce pour cela. Quatrièmement, Paul dit d'espérer au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui va être le résultat final. C'est ça, l'espérance. Tu vois, je suis certain qu'il y en a ici. Il y en avait plusieurs à la première réunion. Alors, on va voir s'il y en a ici, mais je suis sûr qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a qui sont bons pour s'inquiéter? Juste. Amen. Hein? Cool. Mais tu comprends que si tu es bon pour t'inquiéter, c'est un don que tu as? Mm-hmm. C'est le don de la foi. C'est le don de la foi, être capable de s'inquiéter. Ton problème, c'est ton focus. Tu as la foi du désastre. Mais je mets juste la foi en Dieu qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Tu vois, et Paul dit, par la consolation des Écritures. Parce qu'il y a plein de situations dans la parole de Dieu. Ça fait partie du premier C, connaître la parole de Dieu. Hein, quand je regarde dans la parole de Dieu, je rends compte qu'il y a plein de situations où tu te dis, mais c'est le désastre, c'est l'apocalypse. Il n'y a plus aucun espoir. Et là, mes deux mots préférés apparaissent dans le verset. Mes deux mots préférés. Mais Dieu. Yeah! Et là, tu changes. Ça va de l'air du désastre, mais Dieu rentre dans le portrait. Voici Dieu qui rentre sur la scène, puis là, maintenant, ça va changer. Et ça va devenir quelque chose de positif. Tu vois, avec Dieu, il y a toujours de l'espérance. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il y a toujours de la possibilité du bon avec Dieu. Je suis un éternel pessimiste. OK? Je le suis. Encore ce matin, en m'en venant, mon épouse est venue dans deux voitures différentes, et... On s'en venait, j'ai passé sur l'autoroute, et vous savez, nos routes biodégradables au Québec, et il me semble que c'est poussé l'environnement un petit peu loin, non, mais bon. Et il y avait des gros nids de poules sur l'autoroute. Et, bon. Et puis, il y en a, c'est surprise, hein? Oui, c'est ça. J'arrive de la France. J'étais en France il y a deux semaines. J'arrive de la France, pas de nids de poules. On peut-tu voir comment ils ont fait? Mais OK, parenthèse finie. OK. Et tu vois, tout de suite, en m'en venant, je vois les... Et tout de suite, je me dis, j'espère que mon épouse va... Parce que sinon, elle va prendre le clou. Et là, tout de suite, mon réflexe, c'est que mon épouse va avoir un accident. Pourquoi je suis un pessimiste? Parce que chaque jour de ma vie, chaque jour de mon enfance, chaque jour de mon adolescence, a terminé avec mon père qui était sous. Chaque jour. Ça finissait toujours mal. Ça finissait toujours mal. Il n'y a pas un jour de ma vie où ça ne finissait pas mal. Parce que quand mon père était naïf, il devenait agressif, il devenait dangereux, il devenait colérique. Parfois physiquement, souvent verbalement. Chaque jour de ma vie. Tu vois, aujourd'hui, mon réflexe, c'est... Mais quand j'ai lu la dernière page de la Bible, j'ai réalisé qu'avec Dieu, ça finit bien. Ça finit bien. Hein? Spoiler alert. Hein? Tu veux pas ça... La fin de tout, là, ça finit bien. Tu peux espérer que Dieu va faire des choses. Parfois, l'œuvre de Dieu prend du temps. C'est pour ça que ça nous dit par la patience. Ça prend du temps, certaines choses. Mais juste parce que je ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Peut-être que je ne le vois pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Si tu regardes les champs présentement, c'est désespérant quand tu regardes les champs présentement. Hein? Une croûte de glace là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les champs. Mais pourtant, dans quelques semaines, on sait que les fermiers vont sortir, vont commencer à labourer, ils vont mettre la semence dans la terre, et tu sais ce qui va arriver? Absolument rien. Rien. Pendant des semaines, rien. Et tout à coup, il y a des petites pousses qui vont commencer à sortir à gauche et à droite. Et là, tu regardes ça, tu dis, ouf, ça va faire des petits sandwichs, ça. Mais qu'est-ce qui va arriver? Patiemment, on va attendre, puis les petites fleurs vont sortir, puis les fruits vont sortir, puis les fruits vont être matures. Puis à l'automne, ça va être le temps de la récolte, puis on va pouvoir manger des bonnes sandwichs aux tomates. Tu vois? C'est pas parce qu'on voit rien qu'il se passe rien dans la terre. Non, non, la semence est en train de faire ses racines, elle est en train de s'abreuver, elle est en train de se nourrir. Il y a quelque chose qui va... Et la sève va monter dans toute la plante. C'est pas parce que je vois rien qu'il y a rien qui se passe. Si vous êtes parents ici aujourd'hui, puis vous avez des enfants qui sont loin de Dieu, hein? Patience! Patience! Le dernier chapitre n'a pas été écrit dans leur vie encore. Patience! Patience! Consolez-vous! Dieu est à l'œuvre! Garde espoir! En pratique, aime-les. Aime-les. C'est tout ce que tu as à faire. Fais juste les aimer. Ils ont grandi dans l'église, ils sont loin de... Fais juste les aimer. Aime-les. Aime-les, supporte-les, édifie-les. Aime-les. spirituellement, dans la prière, va les tourmenter. Là, va harceler dans la prière. Harceler, Seigneur, je te prie d'envoyer 53 ans, je saute dessus, hey, réveille-les pendant la nuit, crise de panique, toute la quitte, let's go, n'importe quoi, Seigneur, mais va le chercher, va le... En pratique, aime-les. Ah, des fois, on fait le contraire, soyez honnête. On les tourmente et on les harcèle en vivant. Non, 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 fais juste les aimer. Fais juste les aimer. Dans la prière, harcèle-les. Hein? Parce qu'il y a encore de l'espoir. C'est pas tout est terminé. Il y a encore de l'espoir. Tout est possible pour Dieu. Tout est possible. Tu vois, si tu verrais mon désastre. Ben, voici ce que la parole de Dieu me dit. Au tout début, ça dit, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et Dieu a parlé, pouf, et tout a été. Fait que si tu as l'impression qu'il ne te reste rien dans ta vie, là, prends courage, Dieu est capable de faire quelque chose. Tu vois, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tu peux espérer, il est le Dieu de la création. Ce n'est jamais une grotte pour un chrétien. C'est toujours un tunnel. Ah, parfois, on ne la voit pas la lumière au bout du tunnel, hein, parce que des fois, il y a une courbe dans le tunnel. On ne voit pas le... Mais il y a toujours une sortie, peu importe ce que je vis en tant que croyant, il y a toujours une sortie. Et là, il y en a qui me regardaient et me disent, « Ouais, mais je connais du monde qui sont morts, moi, là. » Ce n'est pas la plus belle lumière au bout d'un tunnel, ça? Entrer dans la présence de notre Dieu pour l'éternité, où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur? Wow! Tu vois, tout ce que tu vis est temporaire. C'est temporaire. Ça va arrêter un jour. Ici-bas ou en haut, mais ça va arrêter. On n'est jamais dans une grotte, on est toujours dans un tunnel en tant que croyant. Tout est possible pour Dieu. Cinquièmement, persévérer. Verset 5 nous dit ceci, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. » De persévérer. Il ne faut pas lâcher. Dieu est encore à l'œuvre dans nos vies. Dieu est encore à l'œuvre dans son Église. Dieu est encore à l'œuvre dans notre société. Il n'est jamais trop tard, c'est jamais trop dur avec Dieu. J'ai besoin de continuer, de persévérer. Persévérer dans l'Église, persévérer ensemble. Parce que c'est quoi l'autre option que j'ai? C'est quoi l'autre option que j'ai? Où est-ce que je vais aller pour trouver espoir, assurance, paix intérieure, sachant que j'ai ma vie éternelle assurée, de savoir que je peux avoir la vie? Où est-ce que je vais aller? L'apôtre Pierre a dit à Jésus, « Jésus, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Tu veux qu'on aille où, là? » Tu comprends qu'une fois que tu as goûté à Dieu, que tu as goûté à son esprit, tu as goûté à sa parole, tu as goûté à sa vérité, tu as goûté à son amour, tu as goûté à sa grâce, tu as goûté à sa présence, t'es fait. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé dans le ministère, j'étais pasteur d'une petite église. J'étais assis dans mon bureau et il fallait que tu traverses le temps. C'était un petit local, il fallait que tu traverses le sanctuaire, qui n'était pas très gros. Tu traversais le sanctuaire pour arriver à mon bureau. Et il y a un jour, j'étais assis à mon bureau et j'entends la porte qui ouvre. Vous savez quand quelqu'un rouvre une porte, mais il rouvre la porte. Hein? Il y a plusieurs façons d'ouvrir une porte, mais celle-là, la porte, elle était ouverte. Et là, j'entendais les pas qui s'en venaient. Je ne sais pas c'est qui s'en vient, là. Mais il y a quelqu'un qui s'en vient, là, OK? Et je vois une dame qui rentre, je mets les deux mains sur mon bureau. « Toi, là, je t'ai eu. C'est ta faute! C'est ta faute! » OK, bonjour, ça va? As-tu remarqué, depuis 4 semaines, je ne suis pas à l'église? Oui, parce que d'habitude, on est 25, puis là, on est à 24. Fait que... C'est une petite église, hein? C'est dur de passer inaperçu, une petite église. Mais oui, je le sais, t'es-toi là, on est 24. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, non. Elle dit, depuis, j'ai décidé, parce que toi, tu m'as amené à l'Évangile, puis j'ai décidé que je retournais dans les choses du monde. J'étais tanné de la vie chrétienne. Puis elle dit, là, je vais dans un bar. Puis elle dit, je bois. Puis j'essaie de rencontrer des hommes. Puis j'essaie de faire des choses. Puis elle dit, tout le temps que je suis dans le bar, tout le temps que j'essaie de parler avec un homme, j'entends ta voix dans ma tête qui me dit, t'es pas correct, t'es pas correct, t'es pas correct. Laisse-moi tranquille! Et pastoralement, je l'ai regardé, je suis parti à rire. J'ai dit, t'es faite. T'es faite. T'es faite pour le restant de tes jours. Tu quoi? T'es faite pour le restant de tes jours. Tu pourrais plus jamais être libre. Tu pourrais plus jamais être libre de vivre la vie dans le mal, dans le péché, dans des. Tu pourrais plus. T'es faite. Mais là, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas rester tourmenté de même toute ma vie. Je dis, reviens à Jésus. Tu veux pas être tourmenté? Reviens à Jésus. On retrouve la paix. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue à Jésus. Quelques années plus tard, alors qu'elle était, c'est une dame qui est dans la trentaine, là, c'est pas, elle est dans la trentaine, elle est à son travail, comme à tous les jours. Et tout à coup, un anévrisme au cerveau est tombé morte là. Boum! En un clin d'œil. Paf! Puis elle est rentrée dans les lieux célestes. Tu vois, des fois, on s'éloigne de Dieu et on pense, « Ah, mais quand je vais être vieux, là, je vais revenir. » On ne sait pas toujours. On ne sait pas toujours. Une fois que tu y as goûté, si tes enfants ont goûté à la grâce, si tes enfants ont goûté à la vérité, ils sont faits. Mais dis-leur pas! Fais juste les aimer, mais réclame-le dans la prière. Sont faits! Sont faits! Ils vont revenir parce que la présence de Dieu, ils ont goûté à la présence de Dieu. Finalement, de glorifier. De glorifier. Afin que tous ensemble, au verset 6, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but de nos vies. C'est de glorifier Dieu. Il mérite toute la gloire et toute l'honneur qu'on peut lui donner. Saint François d'Assise dit, « En tout temps, en tout lieu, en toute occasion, prêchez l'Évangile. Et si nécessaire, utilisez la bouche. » Hein? Que ma vie puisse refléter Dieu. Que ma vie, ma façon de vivre, mes principes de vie vont être glorifiés, vont glorifier Dieu. Ça veut dire glorifier Dieu, d'attirer l'attention des gens vers Dieu. C'est Dieu qui est important et qui est bon. Quelqu'un a déjà dit glorifier Dieu, c'est de faire voir aux autres qui est Dieu. De pointer vers celui qui nous a créés, vers celui qui nous a donné la vie. Et de refléter son œuvre dans nos vies. Tu vois, notre appel, c'est d'être des lunes. Pas des lunatiques, là. D'être des lunes. Tu comprends que la lune, c'est juste un gros caillou qui flotte. C'est tout ce que c'est, la lune. C'est un caillou. C'est une grosse roche. Elle flotte. Mais pourtant, dans la nuit, tu peux la voir clairement au ciel. Tu comprends que la lune, par elle-même, ne produit aucune lumière, mais elle fait simplement refléter la lumière du soleil. Et nous, c'est ce qu'on voit. Ta vie, c'est d'être une lune. Il n'y a aucune lumière que tu peux produire en toi-même. Tu as juste à refléter la lumière de Dieu dans ta vie pour que les autres la voient dans la noirceur. Que les autres vont la voir dans la noirceur. De refléter. Mais aussi, le peuple de Dieu qui est appelé à glorifier Dieu d'une seule bouche. D'une seule bouche. L'Église crée l'atmosphère où il n'y a plus de plafond. Et c'est dans cette atmosphère, dans la louange et l'adoration, qu'on peut venir ensemble et louer Dieu ensemble et glorifier Dieu. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. De le reconnaître comme Dieu de tout l'univers. Et de nos lèvres, tous ensemble, nous proclamer. De proclamer et glorifier Dieu. Et tu vois, il y a une grande mode aujourd'hui, je comprends l'attrait hein, d'écouter les messages sur Facebook Live hein, ou d'écouter les messages en ligne. Puis je comprends, il y a des situations, c'est correct, il n'y a rien de mal à écouter. Il vaut mieux écouter ça qu'écouter d'autres choses. Amen? Mais quand tu fais ça, tu te prives de quelque chose qui se vit juste quand on est ensemble. Juste quand on est ensemble et qu'on loue Dieu. Puis on vient se réunir ensemble et on entend les autres louer Dieu à nos côtés. Hein? Fait du bien à nos âmes. Fait du bien à nos âmes. Hein? J'ai vu Sébastien, il est assis en arrière. Mais combien de fois j'ai entendu Sébastien Demery faire la louange? Pff, faire du bien à mon âme. Faire du bien à mon âme. Juste parce qu'on est ensemble. On te conduit dans la louange, comme ce matin. Conduit dans la louange, louant Dieu d'une seule bouche, tous ensemble. Il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de miraculeux qui prend place lorsqu'on vient ensemble pour glorifier. Et si tu fais juste te nourrir sur Internet, tu passes à côté de quelque chose. Tu as besoin de cette présence, tu as besoin de cette onction, tu as besoin des uns et des autres qui louent ensemble Dieu. de louer d'une seule bouche. Ça fait tellement de bien à nos âmes. La vie chrétienne, en conclusion, je vais demander aux musiciens de venir se joindre à moi. C'est une vie qui est excitante. Mais ce n'est pas une vie qui se vit en isolation. On est appelé à vivre ensemble, en groupe, parce qu'on en a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin des petits groupes comme il y a à Nouvelle Vie, des petits groupes pour connecter, de pouvoir se réunir, des fois en grande salle comme ici, des fois c'est dur de faire des contacts, c'est pour ça qu'il y a des petits groupes pour faire des contacts. C'est pour ça qu'il y a du café qui est servi à l'extérieur. Hein, juste de prendre un temps, puis d'aller prendre un café après, puis de faire des contacts, juste de rencontrer des gens. Peut-être que tu peux être, tu dis, ouais, mais moi, je n'ai pas besoin de personne. Oui, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Tu vois? Tu n'as peut-être pas besoin de personne, mais il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui aurait besoin de toi, qui aurait besoin de ton histoire, qui aurait besoin de ton témoignage, qui aurait besoin juste de ton soutien, qui aurait besoin juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, je ne suis pas tout seul. De pouvoir aller dans les petits groupes, de pouvoir se réunir ensemble. Parce que non seulement est-ce que j'en ai besoin, mais c'est là qu'on est le plus sécure, c'est ensemble. Dans 1 Pierre 5, le verset 8, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Et tu sais, c'est qui que le lion va attaquer? C'est toujours ceux qui sont seuls, loin du troupeau. Quand on est ensemble, c'est là qu'on est protégé et qu'on est sécure. D'avoir des liens ensemble, d'avoir du soutien ensemble, de s'édifier quand des fois on est découragé puis on perd espoir parce qu'on regarde la situation de nos vies, on regarde la situation de la vie de nos enfants ou de nos petits-enfants, puis on est découragé d'avoir d'autres qui disent « Non, non, regarde, je ne te laisserai pas seul, je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi. Je ne te laisserai pas seul. Je ne t'abandonnerai pas. » Tu vois, moi, je suis fier de faire partie de l'Église Nouvelle Vie qui a longtemps compris que l'Église, c'est un hôpital spirituel. Amen. Tu vois, c'est pas un club de privé. Tu vois, l'Église Nouvelle Vie, là, c'est pas un club privé pour les purs et sans tâche. Parce que quand tu rentres dans une église où c'est ça la philosophie des purs et sans tâche, tu sais ce qui arrive, il n'y a plus personne qui part. Je n'irai pas y dire que ça ne va pas dans ma vie, ils vont me mettre dehors. Je ne pourrais plus faire partie du club des purs et sans tâche. J'ai rencontré un pasteur dans un autre pays, et en partageant avec le pasteur me dit, « Chez nous, il n'y a aucun divorcé. Pas de divorcé dans mon église. » Je dis, « OK, frère. Hey, donne-moi ton secret. Donne-moi ton secret. Qu'est-ce que tu fais pour que les mariages réussissent tous? Puis, c'est quoi ton secret? » Il dit, « Chez nous, il n'y a pas de divorcé. » OK, c'est quoi ton secret, pasteur? Ah, chez nous, quelqu'un se divorce, on les met à la porte. Ah! Ouais. Vu comme ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça, l'Église? Non, l'Église, c'est un hôpital spirituel. Tu vois, quand ça ne va pas, je peux en parler. Puis je ne me ferai pas juger, je ne me ferai pas abandonner, je ne me ferai pas écraser, je vais être plutôt supporté, je vais être édifié, je vais avoir de l'aide. Puis de créer cette atmosphère-là, parce que tu ne sais pas c'est quand c'est toi qui vas en avoir besoin. Mais d'avoir tissé ces liens-là pour s'unir et de marcher ensemble, parce que c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Tu vois, de marcher les uns, de se supporter, de s'édifier, de contempler ensemble, d'espérer, de persévérer, de glorifier. Paul a dit en terminant vers Romains 15, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Comment est-ce que Christ vous a accueillis, vous? Comment avez-vous été accueillis par Christ? Et je me souviens quand je suis venu à Christ. Je me souviens. Dieu merci, il n'a pas regardé à mon allure. Il n'a pas regardé à mes comportements. Il n'a pas regardé à ce que je pensais, ce que je croyais, ce que je faisais. Non! Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu mon cœur qui était désespéré, qui avait tellement soif de vivre. Et c'est comme ça que Christ m'a accueilli, dans ses bras ouverts, dans son amour, dans sa grâce, dans son pardon, parce qu'il voyait ma soif. Paul nous dit de nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Grande nouvelle pour chacun de vous ici ce matin. Il n'y a personne ici qui est parfait. Si tu es en choc de ce que je viens de te dire, prends un rendez-vous, je fais de la thérapie, je vais t'aider. Il n'y a personne de nous autres qui est parfait. Personne de nous autres. Cette église n'est pas parfaite. Cette église n'est pas parfaite. Parce que si elle l'était, tu ne pourrais pas y être. Et j'aurais prêché à des chaises vides ce matin. T'as pas une dessus? Moi non plus, je pourrais pas être dans l'église parfaite, c'est ça que j'essaie de dire. Ouais, mais pasteur, c'est plein d'hypocrites dans l'église. Ah bon? Juste dans l'église? Ah ouais? Ah bon? Est-ce qu'il y a des gens qui prétendent quelque chose puis ils ne sont pas? Ben oui. Comme nous aussi, on le fait des fois. Amen. Amen. Hein? On rentre à l'église, ça va bien. Ah oh oui, gloire à Dieu. C'est pas vrai, pantoute. Arrête. C'est le désastre total dans ta vie. Tu ne sais même pas si Dieu existe encore. Ah, mais de marcher dans l'unité, de marcher dans l'honnêteté, de s'accueillir comme Christ nous a accueillis. Il y a un dicton africain qui dit ceci. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. Marche avec les autres. La réalité est ce matin, tu as besoin des autres. Tu as besoin des uns des autres. Tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin des autres. Mais les autres ont besoin de toi. Tu réalises que tu es tellement unique que tu es la seule personne sur la terre dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, la seule personne sur l'histoire humaine, la seule personne qui va pouvoir manifester le royaume de Dieu comme toi, tu vas pouvoir le faire. Parce que Dieu t'a créé de manière unique. Si toi, tu n'as pas besoin des autres, les autres ont besoin de toi ce matin. Mais j'aimerais te suggérer que les autres ont peut-être quelque chose à t'offrir toi aussi. De ne pas rester dans la solitude. De ne pas rester dans la solitude.
Merci de vous être joints à nous pour le message d'aujourd'hui. On espère que ça vous a encouragé. Si vous avez à cœur de nous aider à diffuser des messages comme celui-ci à chaque semaine, n'hésitez pas à nous supporter en vous rendant à don.nouvellevie.com. Soyez bénis et à très bientôt.